Merci Thomas Séchier, on vous retrouve à 9h pour le journal. Bonjour à toutes et à tous.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources. Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. Vive le cinéma, vive Cannes, vive les femmes. C'est sur ce cri du cœur que s'est ouvert le 69e Festival de Cannes. Cannes, c'est un très gros rendez-vous du mois de mai. Le Festival de Cannes est l'événement le plus médiatisé du monde après les Jeux Olympiques. Plus de 5000 journalistes accrédités, les caméras du monde entier sont à Cannes. Mais il semble que l'intérêt du public pour le festival se soit émoussé. Selon un sondage BVA, un Français sur deux s'intéresse au cinéma, mais seulement 28% des personnes interrogées s'intéressent au Festival de Cannes. Cannes reste un événement. Comment travaillent les journalistes durant le festival? Que se passe-t-il autour du tapis rouge? Bref, les coulisses de Cannes, on en parle ce matin dans le secret des sources avec nos invités. À Paris, en studio, Marie-Josée Sirache, bonjour.
Bonjour.
Chef du service culture du journal L'Humanité et en duplex de Cannes, des studios Radio France, Thomas Sautinel, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au Monde et vous avez publié Rock et cinéma aux éditions de La Martinière. Pierre Murat, bonjour.
Bonjour.
Rédacteur en chef adjoint à Télérama et responsable de la rubrique cinéma et Antoine Guillot, bonjour Antoine.
Bonjour Frédéric.
Critique cinéma à France Culture, producteur de la revue de presse culturelle de la dispute à 21h15 sur France Culture. Notre regard extérieur nécessaire qui nous accompagne aujourd'hui, Mariette Darigrand, sémiologue. Bonjour Mariette.
Bonjour Frédéric.
Le clin d'œil de la semaine de Yacine Bouzard et nous rejoindrons en fin d'émission Cyril Sauvageau, correspondant de Radio France et France Culture à Berlin. Dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Vincent Abouchard avec aux manettes aujourd'hui à Paris, Alexandre Dang et à Cannes, Laurent Lucas. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous écrire. Vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Qu'est-ce qu'il y a dans une palme d'or? Il n'y a pas que de l'or, il y a tout un festival de rumeurs, il y a des débats passionnés d'un jury.
Pendant 15 jours, votre poste de télévision va vous transformer en journaliste. Voici votre carte. Inscrivez-y votre nom et commencez votre visite par le commencement.
Au lieu du tourisme balnéaire international, célèbre pour sa croisette bordée de palmiers et pleine de cônes en perlousée traînant des chihuahuas, Cannes brille surtout pour son festival annuel du cinéma où les plus notables représentants de la servilité journalistique ordinaire côtoient les plus éminentes incompétences artistiques internationales.
Voilà, vous avez notamment reconnu Pierre Desproges, extrait de l'une de ses chroniques de la haine ordinaire. Alors, les coulisses du festival, je me tourne d'abord vers nos invités en duplex de Cannes. Antoine Guillot, notre critique cinéma France Culture. Antoine, en général, lorsqu'un journaliste dit qu'il part à Cannes pour couvrir le festival, immanquablement, on lui répond, mais quelle chance tu as. Vous êtes d'accord, Antoine, critique de cinéma à Cannes, c'est une chance?
C'est une chance, mais peut-être pas pour la raison que s'imaginent les gens qui vous disent ça, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent qu'on va croiser des vedettes toute la journée, faire des fêtes sans arrêt et revenir extrêmement bronzé. Alors c'est un peu tout le contraire. La chance qu'on a, c'est de voir en principe les bonnes années, l'essentiel des très bons films qu'on verra en salle pendant le reste de l'année. Pour ce qui est des fêtes des stars, alors les stars parfois on les croise quand on fait une interview à la chaîne et qu'ils sont de plus en plus fatigués et répètent un peu toujours la même chose. Donc le défi, c'est de leur faire dire autre chose.
On va en parler, oui.
Et les fêtes, quand vous voyez 3, 4, parfois 5 films par jour et qu'au milieu, vous devez écrire des papiers, les enregistrer, faire des interviews et essayer de trouver parfois le temps de réfléchir au film, ben finalement, vous êtes bien content d'aller vous coucher le soir quand vous avez fini tout ça. Donc c'est pas forcément la belle vie que peut s'imaginer le public, en tout cas.
Thomas Sautinel du Monde, vous estimez privilégié ou c'est pas forcément la belle vie comme vient de le dire Antoine?
Bah, c'est une vie intense et laborieuse, mais c'est un privilège de découvrir les films Avant, il y a un privilège particulier qui est celui de ces projections, parce que après tout, c'est ce qu'on fait tout au long de l'année. Nous autres journalistes de cinéma, on voit les films avant les spectateurs en projection de presse, mais à Cannes, dans des très grandes salles, avec une projection impeccable, des films dont on sait malheureusement de plus en plus de choses avant, mais quand même, qui sont très inédits, il y a un plaisir de la découverte qui est sans égal, qui s'est reproduit encore cette année avec quelques-uns des films présentés.
Pierre Murat de Télérama, 5 films par jour en moyenne, c'est ce que vous arrivez à voir. Est-ce qu'on arrive à garder la même rigueur journalistique à chaque projection, ou est-ce qu'on est plus sévère parfois avec un film en fonction de son horaire de diffusion?
Ah non, pas du tout. Non, on essaie de garder des rigueurs. Donc, je voudrais juste rebondir sur les fêtes et tout ça.
Oui.
Ça a changé. C'est-à-dire que moi, j'ai connu un temps, vu mon grand âge, où il y avait des confrères que je ne citerai pas, mais qui voyaient le film du matin, puis ils s'installaient tranquillement au bar, pas loin de l'ancien palais du festival qu'on appelait le Blue Bar, et ils attendaient tranquillement, très tranquillement, le film de l'après-midi, et ensuite, ils allaient aux fêtes. Mais il y avait des critiques qui passaient, en effet, leur vie à côté du cinéma, en quelque sorte. Maintenant, ça a beaucoup changé, parce que de toute façon, ce n'est plus tolérable, et puis le web est arrivé, et je peux vous dire que à partir du moment où vous êtes en effet obligé de, c'est une joie, bien entendu, mais de voir un film à 8h30, et après d'avoir décidé, dans le cadre de mon équipe à Télérama, qu'on se passe des coups de fil, est-ce que c'est toi qui le fais, est-ce que c'est... Bon, celui qui le fait pas, il peut aller voir un autre film, et celui qui le fait, il se précipite sur son ordinateur pour essayer d'envoyer le papier le plus vite possible. Donc, plus de fêtes, ou alors, les gens qui essaient de faire les deux, c'est-à-dire de voir des films et de faire des fêtes qui sont de moins en moins nombreuses, ils arrivent avec des lunettes de soleil au bout de 3-4 jours pour dissimuler les cernes, quand même, parce que c'est très 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 compliqué.
Mais la journée, Pierre Murat, c'est 5 films par jour, si on est consciencieux?
Je crois qu'on peut plus. Moi, je me souviens que quand j'ai débuté, les films étaient plus courts, d'abord, pour commencer. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on pouvait voir 6 films par jour quand on était absolument fou comme moi de cinéma. Maintenant, comme la majorité des films à Cannes, on dirait que d'ailleurs les gens croient que s'ils font des films de 2h25 ou 2h42, même pour certains, ils ont plus de chances d'être palmés, comme on dit. Donc, c'est difficile de voir 5 films actuellement à Cannes.
Marie-Josée Sirache de l'Humanité, vous avez couvert 10 festivals de Cannes. La journée ressemble à quoi? Une course contre la montre entre projections, interviews?
Oui, d'abord je tiens à préciser que je n'y suis pas cette année pour des raisons qui tiennent aux difficultés que traverse l'Humanité. Donc au lieu d'être 3, l'équipe a été réduite à 2 envoyés spéciaux. C'est un rythme de travail, effectivement, je rejoins mes confrères, un rythme de travail à la fois effréné et enthousiaste. C'est un travail de l'ombre. Les gens ont le regard qui brille, et ils ne mesurent pas que, effectivement, le côté glamour que l'on peut voir à la télé ou sur le web, c'est pas trop pour nous, parce que d'abord, effectivement, la durée des films s'est rallongée. Il y a beaucoup de sections parallèles au-delà de la section des films en compétition, la section officielle. Donc on passe notre temps à courir, à voir les films, à faire la queue, à se lever très tôt pour la séance du matin de 8h30 pour être sûr de pouvoir rentrer dans l'amphithéâtre. Et puis ensuite, il faut retourner ou dans sa chambre d'hôtel ou dans la salle de presse pour écrire. Et voilà, on n'arrête pas, donc on revient de Cannes, on est assez fatigué, mais heureux.
Thomas Sautinel et Antoine Guillot. Thomas Sautinel, les films sont trop longs, vous êtes d'accord avec Pierre Murat?
Non, c'est assez varié. Je ne suis pas d'accord dans la mesure où j'ai couvert... une bonne partie de la compétition et la totalité de la quinzaine des réalisateurs et de la semaine. Et le phénomène qui était tout à fait perceptible en compétition n'était pas du tout le même dans les sections parallèles.
Oui,
donc c'est très variable. Effectivement, il y a eu quelques films très longs qui en plus ont été projetés d'affilée pendant la compétition, ce qui donnait beaucoup de matériaux à assimiler en quelques heures. Non, je ne crois pas que ce soit la question. La question, c'est effectivement l'angoisse qu'on a, que toutes les équipes qui sont à Cannes ont de rater le film qu'il faut voir entre... Alors, la compétition, en général, on ne le rate pas, mais dès que c'est dans une autre section, un certain regard, la quinzaine, la semaine, il faut faire attention, il faut être là, il faut être aux aguets, parce qu'on parle aussi, on parle des lunettes noires pour dissimuler les cernes, mais elles servent aussi à dissimuler les petites pause que l'on prend pendant les projections.
Et à dormir. Interdit.
C'est interdit, mais j'aimerais qu'on filme avec une caméra infrarouge une salle de projection de la séance de 8h30 en fin de festival. Et je suis sûr qu'on aurait quelques enseignements.
L'oreille suffit, hein, parce qu'il suffit d'avoir un voisin qui ronfle à côté. Mais la durée des films est toujours quand même très relative, c'est vrai, toute l'année, mais à Cannes encore plus qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'un long film à Cannes, ça dépend du film. Il y a des films très courts qui n'en finissent pas. Et quand vous êtes sur un excellent film, alors on n'est pas toujours d'accord sur lequel est excellent ou pas, mais vous pouvez passer 3 heures sur un film que vous ne verrez pas passer. En revanche, les années, et c'était le cas, je me souviens l'an dernier, où la sélection officielle en compétition était assez faible, la fatigue accumulée, on la sent très vite passer. Parce que si les films ne vous portent pas, ça devient assez difficile de tenir éveillé, sachant que c'est quand on se sent bien dans un film, donc quand le film est bon, qu'on a plutôt tendance à s'endormir, alors que les films mauvais vous énervent et vous gardent éveillé. C'est jamais là qu'on arrive à s'endormir.
Pierre Murat, à Cannes, est-ce que les journalistes sont-ils tous égaux?
Ah non, pas du tout. Moi, je dis toujours que Cannes est, pour les journalistes, une leçon d'humiliation permanente. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes cartes, pour commencer. On est tous encartés. Moi qui vous parle, là, j'ai la chance d'avoir le top du top, c'est-à-dire la carte blanche. La carte blanche, ça a l'air de rien, mais ça vous permet d'entrer au dernier moment dans les salles, d'avoir des fauteuils réservés dans certaines salles, ce qui fait que vous pouvez en effet arriver au dernier moment et entrer. Et après, il y a toute une série de couleurs qui font... Alors, il y a la carte rose pastille jaune, la carte rose sans pastille jaune, puis la bleue, puis la jaune. Et si vous êtes la jaune et même la bleue, vous pouvez quelquefois faire la queue pendant 1h30 ou plus et ne pas entrer dans les salles. Et la carte vous est donnée en fonction, en gros, de l'importance de votre journal. Et donc, des petits journalistes qui ont quelquefois... Enfin, quand je dis petits, qui travaillent dans des petits médias et qui auraient besoin de voir quelquefois des films, et ben ceux-là, ils restent à la porte. Donc non. C'est pour ça que de temps à autre, on croise des gens mais révoltés. Moi, je raconte toujours, une fois, j'ai vu une consoeur en larmes à la porte de la salle de Bussy d'un certain regard. Parce que les nerfs craquent, et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il me dit, mais j'ai pas pu entrer dans la salle. C'était pas très, très, très grave, mais on vit 12 jours de folie furieuse. Ne pas entrer dans la salle, ça devient une catastrophe. Mais ça devient une catastrophe parce qu'elle a été humiliée, parce qu'elle avait pas la carte qui lui permettait d'entrer. Voilà. Tandis que moi, j'arrive avec ma carte blanche, je rentre. Moi,
Et Antoine Guillot, est-ce qu'on a, France Culture, la carte blanche? Rassurez-moi.
Alors, je pense que Michel Simon, là, titre, je ne sais pas si c'est de Positif ou de France Culture, Laure Adler, sans doute aussi. Moi, j'ai réussi à bénéficier, au fil des années, d'une carte rose pastille,
ce qui est quand même un certain titre
de noblesse. Je ne suis pas un comte comme Pierre Murat, mais je suis une sorte de marquis de la critique cinématographique.
Marie-Josée Sirache.
Si Antoine est un marquis, je suis donc une marquise.
Ouais. Vous aviez la même couleur de carte.
Oui. Non, mais je comprends l'anecdote que racontait de cette jeune femme en pleurs. Ouais. C'est pas tant parce que la couleur est extrêmement sévère, parce que les journalistes possesseurs de la carte, je crois, bleue, jaune, c'est-à-dire les couleurs pour les supports de presse les moins importants, selon une hiérarchie décidée par le service de presse, parfois attendent plus de deux heures pour pouvoir rentrer, en ne sachant pas s'ils vont rentrer. Et donc la déception, effectivement, moi je comprends très bien qu'il y ait des gens en larmes qui arrivent. Et alors c'est tout le système, de toute façon, des accréditations, c'est-à-dire qu'il y a 5000 journalistes accrédités, mais il n'y a pas 5000 places dans l'amphithéâtre de Debussy.
Il faut préciser peut-être aux auditeurs comment se passent les projections de presse. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de films selon l'heure à laquelle ils passent le lendemain en projection officielle. Si le film passe à 8h30, puis à 14h, puis à 19h, c'est-à-dire le film choisi un peu le plus prestigieux pour la montée des marches de 19h, à ce moment-là, les journalistes vont à la projection de 8h30 avec les autres spectateurs, tous professionnels, hein, il faut le rappeler.
Les journalistes sont un festival de professionnels, il n'y a pas de public.
Quasiment pas, il faut être inscrit dans des cercles cinéphiles, c'est assez complexe. Mais en tout cas, les journalistes sont prioritaires, et puis il y a des professionnels qui sont courageux, qui se lèvent pour y aller le matin. En revanche, le second film de la journée, les journalistes le voient la veille à 19h dans cette salle Debussy, qui est une autre salle du Palais des Festivals, assez grande quand même, dont parlait Marie-Josée. Et puis, pour ceux qui n'ont pas réussi à rentrer, il y a encore une autre séance à 22h le soir dans une autre petite salle, la plus petite du Palais, qui s'appelle la salle Bazin. Il arrive pour certains films où les journalistes sont très très attentifs parce que le film est attendu, c'était le cas cette année avec le film de Xavier Dolan, que même à la séance de 22h, des journalistes qui ont la carte bleue n'arrivent pas à rentrer. Moi, j'ai effectivement une collègue qui a fait 5h30 de queue pour voir le film de Xavier Dolan et n'a pu le voir que le lendemain, le surlendemain, dans des séances de rattrapage, et regrettant finalement d'avoir mis autant de temps pour voir ce film.
Il faut préciser quand même que cette année, le Festival de Cannes...
Thomas Sautinel, oui.
Conscient du problème, a doublé la projection du matin et le film est projeté dans deux salles différentes, le Grand Théâtre Lumière et la salle de Bussy, pour essayer effectivement d'accueillir un maximum de journalistes. Je voulais aussi préciser que cette hiérarchie est effacée dès qu'on sort du palais. C'est-à-dire que quand on va à la quinzaine des réalisateurs ou à la semaine de la critique, c'est en gros premier arrivé, premier servi, avec quelques arrangements possibles, si
quand
on
même,
connaît l'attaché de presse,
voilà,
etc.
Quand même, ça joue. Ça joue.
À la quinzaine en particulier.
Mais quand même, cette hiérarchie n'existe pas dans les...
Non mais elle est logique, la hiérarchie. Mais elle crée, évidemment, c'est pour ça que je parlais de frustration et d'humiliation.
Elle est logique, mais je ne la vois pas à l'œuvre dans les autres grands festivals.
À Berlin, il y a deux niveaux d'accréditation différents. C'est-à-dire qu'il y a à Berlin, vous avez la presse quotidienne, qui a comme seul privilège de pouvoir voir le film de la compétition la veille au soir, parce qu'elle a besoin d'écrire dessus le jour même, et tous les autres journalistes. Et je crois qu'à Venise, c'est pareil, il y a deux niveaux.
Et à Toronto, il n'y a pas, à ma connaissance, pas de hiérarchie entre journalistes.
Mais c'est très français. Alors, Frédéric Wiseman vous dirait que ce sens de la hiérarchie est extrêmement français.
Alors, Thomas Sautinel, du Monde, est-ce qu'on peut dire que les journalistes, je ne sais pas s'ils sont maltraités, mais malmenés à Cannes?
Il me semble, ayant pratiqué le festival depuis quelques décennies déjà, ce qui se passe à Cannes est le reflet de ce qui se passe ailleurs. La profession de journaliste ne jouit plus du prestige qui a pu être le sien au siècle dernier, que maintenant, les journalistes ont une fonction à remplir dans la mécanique de Cannes. On leur demande de la remplir, c'est-à-dire de voir les films, d'en rendre compte le plus vite possible, sur Twitter éventuellement, en tout cas d'envoyer des papiers très très vite, pour ce qui servira non seulement à l'information du public, mais à l'établissement de la cote du film sur le marché pour ses ventes internationales, et par ailleurs à interviewer, et je sais même plus si on peut parler d'interviewer, en tout cas à rencontrer, à poser quelques questions, le talent, puisque c'est comme ça qu'on dit en langage du cinéma, le talent, c'est-à-dire les réalisateurs et acteurs qui répondent à la chaîne, qui font des journées de presse avec quelques dizaines d'interviews plus ou moins longues et qui répondent en général qui font les mêmes réponses aux mêmes questions.
Marie-Josée Sirache de l'Humanité.
Alors, je ne sais pas si c'est une question de ligne éditoriale ou pas, mais il me semble distinguer deux façons d'exercer son métier de journaliste à Cannes. D'un côté, il y a des journaux qui souhaitent qu'il y ait davantage d'aspects plus chroniques, plus people, si je puis dire. Mm-hmm. Et puis, les journaux dont nous faisons tous partie autour de cette table, qui misent encore sur la critique. Et donc, la fonction du critique est importante. Et puis, donc, les journaux accordent de la place à cette fonction-là, qui est quand même pas anodine. Voilà. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Donc, je ne sais pas si on est malmené ou pas, mais en tout cas, on a à ce moment-là de Cannes. Cannes est une vitrine pour le cinéma. Elle est aussi une vitrine peut-être pour l'exercice de la fonction critique. Et ça, c'est bien.
De toute façon, ce qui compte ici, c'est pas les prix. Hein, d'ailleurs, souvent, on oublie qui a eu quoi. Ce qui compte ici, c'est le cinéma. La vraie star, c'est la sélection.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Avec nos invités Antoine Guillot, Thomas Sautinel, Pierre Murat, Marie-Josée Sirache, Antoine Guillot. Critique cinéma en France Culture. Oui.
Moi, je voulais préciser que tout le monde.
Et après, je vous pose une question.
Tout le monde est quand même très malmené à Cannes. C'est-à-dire que Cannes, ce sont des conditions de travail très très compliquées, épouvantables pour tous les professionnels du cinéma. Les attachés de presse de l'autre côté vous diront qu'elles sont très malmenées. Les producteurs aussi, les exploitants de salles qui ont besoin de voir des films.
C'est très compliqué
la programmation de leur année à venir ont les plus extrêmes difficultés à obtenir des invitations pour pour pouvoir y aller. Donc il y a un climat d'hystérie générale à Cannes où tout est très énervé parce que tout va très vite et que il y a des enjeux aussi pour chacun professionnel. Alors pour les journalistes parce que les rédactions nous réclament des papiers, mais pour tous les gens qui sont là, qui présentent un film, qui attendent de voir comment il va être accepté, ce qui peut d'un seul coup, en 5 minutes d'applaudissements ou de sifflets, décider de la carrière internationale d'un film. Tout le monde est quand même très à cran à Cannes. Il faut pas ramener ça que à nous autres pauvres journalistes.
Alors, Pierre Murat de Télérama, Canal Plus est beaucoup moins présent à Cannes cette année. C'est vrai qu'il vampirisait la croisette. Est-ce que c'est plus facile de travailler, d'avoir accès aux stars, aux réalisateurs depuis que Canal Plus est moins sur le devant de la scène?
Bah non, Canal Plus,
ça n'avait pas changé grand chose.
Oh bah non, parce que Canal Plus, il faisait son petit truc de mondanité, c'est très bien. Mais enfin, non, mais moi j'ai la chance de travailler dans un journal qui est un peu prescripteur, un peu connu, un peu bon. Donc, si on veut rencontrer des stars, c'est moins difficile pour nous que pour certains journalistes qui travaillent dans des supports un tout petit peu moins célèbres. Ouais. Mais ce qui reste vrai, c'est que à Cannes, moi maintenant, étant responsable de la rubrique, je laisse les autres travailler parce que avant je faisais beaucoup d'interviews avant, mais c'est très compliqué des vraies interviews. Par exemple là, moi, il y avait un certain regard, un film russe qui s'appelle Le Disciple, qui me plaît beaucoup. Bon, à tort ou à raison, j'aurais rêvé de rencontrer le metteur en scène, qui est un metteur en scène de théâtre d'ailleurs, qui s'appelle Serebrennikov. Bon, j'ai la chance de parler un tout petit peu russe, donc on aurait gagné un peu de temps. Mais tout de même, si c'est 20 minutes pour un mec aussi important, avec une traductrice, ça n'a pas d'intérêt. Donc en effet, on est tous contraints, Télérama et les autres, de faire ce qu'on voit tous, c'est-à-dire Marion Cotillard donne 3 minutes, puis 2 minutes, puis 15 heures, et tous ressemblent, et les questions sont les mêmes. Moi, je me rappelle, il y a déjà assez longtemps, un réalisateur russe, encore, j'y tiens, pardon, je parle de la Russie sans cesse, ouais, mais Nikita Mikhalkov, que je connaissais bien, et qui me disait, après chaque interview, il me disait, question numéro 12, question numéro 27, parce qu'on ne peut pas être plus malin que les autres, alors c'est toujours, et alors vous êtes content d'être à Cannes? Ben oui, je suis content d'être là. Et comment vous avez choisi votre acteur? Eh bien, je l'avais vu là, voilà. Donc ça va tellement vite. Et puis, quand on vous donne 3 minutes 30, c'est pas 3 minutes 50. Hein. Il y a des attachés de presse, surtout à l'américaine, qui sont là pour vous dire, attendez, dans 15 secondes c'est terminé, dans 5 secondes c'est terminé. Donc, interviewer des gens à Cannes sérieusement, c'est impossible.
Et Marie-Josée Sirage de l'Humanité.
Comme le disait notre confrère, tous les journaux n'ont pas la même facilité d'accès aux entretiens avec des stars. Donc plus ce sont des stars américaines ou moins. Et en même temps, moi, le parti pris que nous avons à l'Humanité, c'est de se passer d'entretien ou très très peu ou à la marge. Ou alors, parce que d'abord, effectivement, ça se fait à la chaîne. Enfin, les conditions sont épouvantables. Le timing est extrêmement resserré. Et finalement, la personne que l'on a en face, que ce soit le réalisateur ou les acteurs, vous répète la même chose. Donc l'intérêt est totalement... Mais Cannes, pour moi, c'est une tentative quand même de conciliation de l'économie du marché et de l'exigence artistique du point de vue des auteurs. Donc dans tout ce magma, voilà, il y a la loi du marché, parce que c'est quand même une industrie, le cinéma, et on le sent à Cannes. Et il y a des auteurs qui sont là, qui présentent des films. C'est une vitrine incroyable. Comme le dit Sylvie Piala, pour beaucoup, être sélectionné à Cannes, pour beaucoup de ces réalisateurs-là, c'est s'assurer de pouvoir tourner un film après. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même un enjeu économique important aussi.
Alors sur les interviews, on va écouter Sabrina Champenois et Marie Coleman.
Vous parlez de journalisme, mais... De l'autre côté, ce qu'on attend, c'est de la com. Voilà. Ils n'attendent pas qu'on fasse du journalisme.
C'est ça le problème. Et donc, nous, on essaye de tenir le langage de l'information, parce que c'est notre métier. Journaliste, c'est transmettre une information. D'accord? C'est ça notre métier. Ouais. Rien de plus, rien de moins. Et nous, on nous impose, en échange, un vocabulaire de promo. Ce qui change la donne, parce que si on fait de la promo, là, il faut qu'on demande beaucoup d'argent.
Voilà, Sabrina Champenois de Libération, Marie Coleman, dit télévision, interrogée sur France Culture l'an dernier lors du Festival de Cannes, 68e édition. Thomas Sautinel, vous êtes d'accord, on est du monde, on est dans la com, là, lors de ces interviews à la chaîne?
Je pense que ça dépend vraiment beaucoup de la personnalité qu'on interviewe. Là, j'ai quand même fait quelques interviews cette fois-ci. J'ai interviewé, par exemple, Terry Gilliam, qui est un homme que j'aime beaucoup et un réalisateur dont j'ai admiré pas mal de films, qui présentait le lancement de la remise en chantier de l'homme qui a tué Don Quichotte. Et là, c'était de la pure communication. Il a un discours extrêmement agréable à écouter, mais qui est tout à fait formaté. Il a tenu une conférence de presse. Il a redit vraiment quasiment mot pour mot dans l'interview qu'il nous a accordé. Il a redit la même chose. En revanche, j'ai interviewé Laura Poitras, la réalisatrice de Risk et de Citizen Four, les documentaires sur Julian Assange, et Edward Snowden, juste après la projection de son film. C'était très intéressant, c'était pas formaté du tout de l'aveu de l'intéressé, puisqu'elle avait fini le film l'avant-veille et qu'elle n'avait pas eu du tout le temps de roder son discours, qui était tout à fait libre et aussi un peu incertain. C'était un moment extrêmement intéressant. Donc je veux pas être complètement négatif. Il arrive quand même, heureusement, souvent, qu'on puisse... avoir des moments révélateurs, parce que la pression peut aussi jouer, la pression que l'on ressent à Cannes peut aussi jouer dans ce sens.
Antoine Guillot, Pierre Murat, vous êtes d'accord?
Je suis d'accord, assez d'accord avec ça. D'abord parce que à Cannes, peut-être la chance que nous avons à France Culture, c'est qu'on a un peu de temps. Et pour m'occuper de la programmation de la grande table à Cannes, et comme c'est du direct la plupart du temps, on a quand même une installation comme ça qui les sort de cet ensemble de ce qu'on appelle les junkets et autres interviews à la chaîne. Ça, c'est une première chose. Et puis il y a aussi le plaisir que j'ai moi personnellement, parce que je fais quelques interviews, moi qui en fais plus trop pendant l'année, pour la grande table à ce moment-là, de ne faire des interviews qu'avec des gens que j'ai envie de rencontrer et avec qui je me dis qu'il peut se passer quelque chose. Cette année, j'ai rencontré...
Ça, c'est une grande chance, Antoine.
Mais
ça,
c'est un luxe. Une grande chance. Mais c'est un luxe, mais qui aussi se négocie d'une certaine manière. C'est-à-dire que j'ai eu la possibilité cette année de discuter avec William Friedkin, avec Jeff Nichols, avec Jim Jarmusch, les frères Dardenne, etc. Et malgré tout, peut-être parce que, en réfléchissant un peu, moi, je lis systématiquement les dossiers de presse pour voir tout ce dont je n'ai pas envie de parler, qui est justement le discours formaté. À partir du moment où on fait une interview critique, à partir du moment où on propose une lecture critique à un cinéaste et qu'à partir de là, une discussion s'engage, il peut effectivement se passer quelque chose. Et souvent, les cinéastes eux-mêmes en sont ravis parce que ça les change du discours qu'ils doivent redonner à chaque fois. Et où certaines télévisions, par exemple, vont leur dire « Vous pouvez me dire la même chose, mais en une minute ?»
Et il est quand même très très fréquent quand on interviewe quelqu'un à Cannes que la personne vous demande « Au fait, vous avez vu le film ?» Ce qui montre bien que souvent, ils ont affaire à des gens qui n'ont pas vu le film. Et je ne peux pas les blâmer, ça m'est arrivé la première fois que je suis allé à Cannes d'interviewer Sergio Leone sans avoir vu « Il était une fois en Amérique ». Il y a des pires souvenirs de ma carrière. Mais je ne peux pas les blâmer parce qu'il y a des contraintes dans certains médias. Mais c'est effectivement très pénible pour les gens qui sont interviewés.
Mais pour les grandes interviews, par exemple, nous, on a fait Vincent Cassel. Oui, on a fait on le fait à Paris. Parce qu'on a deux heures et qu'on peut... Voilà, donc Cannes, pour moi, est plus des amorces de rencontres quand je faisais des interviews que des grandes interviews.
Bon, personne n'a interviewé Julia Roberts.
Non, alors il faut préciser que certaines stars américaines, on atteint une autre dimension parce que ce n'est même plus le grand hôtel quelque part à Cannes. On vous emmène au Cap d'Antibes dans un hôtel de luxe où là vous n'avez que des interviews, ce qu'on appelle les poules, c'est-à-dire que vous êtes plusieurs en même temps. Elle va accorder un quart d'heure à 6 radios, par exemple. Et quand je dis un quart d'heure, c'est vraiment le luxe parce que généralement c'est plutôt 8 minutes et vous aurez effectivement tous le même son avec des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes questions. À poser.
Thomas Sotinel, Pierre Murat, Antoine Guillot, Marie-José Sirache, on se retrouve dans un instant.
Anyone who will see love.
Amy Winehouse sur France Culture, Between the Sheets. Mariette Darigrand, chroniqueuse sémiologue du Secret des Sources, où vous me disiez, Mariette, en préparant l'émission, qu'il faudrait peut-être envoyer aussi des journalistes politiques au Festival de Cannes, parce que le cinéma est peut-être un peu plus en prise avec le réel, ce n'est plus seulement du cinéma de divertissement.
Ben, c'était frappant, là, dans la sélection cette année, quand même, le nombre de films, disons, sociétaux, pour ne pas dire politiques. Alors, bon, on connaît bien sûr Ken Loach, les frères Dardenne, mais on peut même dire que, par exemple, Maloute, c'est un film qui décale, mais qui est quand même aussi sur cette question de la pauvreté, des riches, des pauvres. On a cette question traverse énormément le cinéma. Le film de Jodie Foster s'interroge sur l'argent, le film de Baccalauréat du Roumain Mungiu s'interroge sur la corruption. Enfin, on sent bien que le monde vient dans le cinéma. Alors ça n'est pas nouveau, mais cette fois c'est la concentration, enfin c'est le nombre de films qui est tout à fait frappant. L'année dernière, La loi du marché Oudipane, c'était aussi dans la même veine. Bon, alors que se passe-t-il? Effectivement, le cinéma, c'est comme si le cinéma rappelait le monde aujourd'hui. Les cinéastes avaient un désir de ne pas tout faire disparaître dans le strass. C'est ce qui vient d'être dit par les journalistes intéressants sur le fait qu'il y a une espèce de bulle, hein. On s'enferme dans une bulle et puis, alors les cinéastes le disent à un moment où peut-être le cinéma est en train de devenir un art quasiment élitiste, hein. Vous disiez, le festival a moins intéressé cette année, la montée des marches, on voit qu'il faut peut-être que Kim Kardashian arrive pour qu'on s'y intéresse. Hein. Il y a quelque chose, là aussi, une distension, quelque chose qui distancie le public du cinéma, qui était au départ un art populaire et plutôt un art du merveilleux, même s'il y a toujours eu de grands films politiques. Alors, ça n'est pas une émission ici de cinéma, c'est une émission de journalisme. Mmh. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au métier journalistique, qui est précisément cette obligation à ramener le monde par des images ou par des papiers. Alors, est-ce que ça veut dire que les cinéastes sont en train de faire le métier journalistique, un peu comme les documentaristes le font? Ils sont quand même, je crois, les réalisateurs d'une façon générale, très intéressés au travail des documentaristes. Aujourd'hui, le film qui fait beaucoup d'entrées de manière assez inattendue, c'est quand même cet objet bizarre qui est Merci Patron. Donc on voit bien que les réalisateurs s'interrogent, peut-être deviennent-ils journalistiques. Et alors c'est très intéressant parce que les journalistes, pendant ce temps-là, je ne dis pas deviennent des réalisateurs ou des écrivains, mais ils sont en train quand même, pour intéresser le public aussi, car ils ont un problème aussi de vente, eh bien, de rendre plus fictionnel la vie politique ou la vie sociétale.
Vous voulez dire qu'il y a un chassé-croisé entre l'émission de journalistique et de réalisateur?
Ah ben écoutez, c'est la question qu'on peut se poser quand on voit par exemple, c'est plutôt d'ailleurs les séries que le cinéma, je trouve, mais on peut se dire, tiens, épisode La Chute, hein, d'un puissant, ou épisode le harceleur sexuel, puis la revenante, le survivant. On voit bien, Trump a parlé par exemple, il s'est défini lui-même comme un survivant. Donc on voit que la vie politique aujourd'hui est en train de créer de grands personnages, dignes du cinéma ou des séries, alors même que le cinéma essaie de ramener le réel. Oui, une sorte de chassé-croisé.
Merci Marie Darigrand. À Cannes, Thomas Sentinel, Pierre Murat, Antoine Guillot. Pierre Murat, le cinéma est en train de faire le job de journaliste, vous pensez?
Ah mais je crois qu'il l'a toujours fait. Alors là vraiment il l'a toujours fait. Il y a pas mal d'années, c'était l'Italie par exemple qui nous donnait des films politiques de Francesco Rosi, de Dalio Petri, tout ça. Non, Godard a annoncé mai 68 avec plein de films. Enfin, alors vraiment je crois que le cinéma a toujours annoncé le temps. La seule chose peut-être qui s'est passée en France, c'est qu'on était beaucoup plus frileux qu'aux États-Unis pour se ruer sur un fait d'actualité et en faire une fiction tout de suite, comme les Américains ont toujours su le faire avec une vitesse. Les hommes du président, ils n'ont pas attendu 25 ans pour le faire, alors que nous, on est plus prudent avec l'histoire et on est plus prudent avec le temps. Mais que le cinéma annonce le réel, la vie, ça me paraît une évidence depuis qu'il existe.
Et principalement à Cannes, qui aime beaucoup sélectionner ce genre de film, avec cette particularité qu'il y a, notamment dans les séances du soir, c'est que vous avez des gens en costume, en robe de soirée et en smoking, qui se passionnent pour la vie d'une pauvrette dans Rosetta, pour des enfants de classe difficile dans Entre les Murs, et tout le monde trouve ça tout à fait formidable. Voilà, c'est ce hiatus qu'il y a aussi à Cannes qui est toujours assez stupéfiant.
Marie-Josée Sirache de l'Humanité.
Moi, il me semble qu'on a on a rien inventé de mieux que la fiction, qu'elle soit littéraire, cinématographique ou théâtrale, pour raconter la vie. Alors, sur le glissement entre cinéastes, moi je ne les opposerai pas, c'est-à-dire que je crois que le cinéaste, comme l'écrivain, comme le poète, comme le peintre, bénéficie d'un facteur que nous avons de moins en moins, nous les journalistes, c'est le temps. Ils ont le temps. Quand Mariano Otero va filmer les ouvrières qui ont repris leurs usines, quand nous, on nous dit « tu as 48 heures top chrono pour aller en reportage et ramener ton sujet », elle se plonge dans cet univers-là pendant 6 mois. Et à l'arrivée, ça donne un film. Voilà. D'autre part, moi, je ne distinguerai pas fiction et documentaire parce que je trouve que dans... je parle de cinéma, c'est-à-dire que pour moi, les deux font partie de cette famille-là, c'est des genres différents, mais il y a des films de fiction qui sont une plongée dans le réel, qui, de par leur facture, leur narration, leur parti pris, et qui valent des documentaires, même s'ils n'ont pas cette étiquette-là. Donc, je veux dire, la frontière est pour moi... Et je trouve qu'on en manque peut-être cruellement à Cannes. En tout cas, il y a des sections parallèles, on peut en voir. L'an dernier, à l'Acide, qui est une autre toute petite section à Cannes, moi j'ai vu un film magnifique d'Anne Roussillon sur l'Égypte, « Je suis le peuple ». Et elle a pris le temps, je crois que ce film lui a pris 2 ans de tournage, mais elle s'est immergée dans une famille de paysans au bord du Nil. Et tout d'un coup, ce qu'elle nous montre à l'image nous permet, comme en flashback, de comprendre cette révolution Place Tahrir et d'entendre l'intelligence de ce peuple égyptien. Voilà, il y a des choses comme ça dans le cinéma qui, effectivement, parce qu'ils ont le temps, il y a une liberté que nous, on n'a pas, enfin des contraintes que nous n'avons pas. Après, il y a des contraintes économiques, hein, de la faisabilité d'un film, c'est indéniable. Mais voilà, et les journalistes, alors... ce temps-là, c'est fait que, effectivement, non pas qu'on bâcle nos sujets, enfin, je parle des journalistes politiques ou ceux qui font les rubriques économiques, sociales, mais c'est qu'on va très très vite, on est pris par le temps, on est pris par une course au flot permanent, et voilà, et on s'ajuste et on fait comme on peut, donc...
Alors, un mot à Antoine Guillot, Pierre Murat, Thomas Soutinel. Demain, nous connaîtrons le palmarès, hein, la Palme d'Or. Quel est votre coup de cœur, Thomas Soutinel d'abord, Pierre Murat ensuite et Antoine Guillot?
Ça a été le film allemand de Marina Dege, jeune réalisatrice qui en est à son 3e long métrage, Tony Erdmann, c'est-à-dire... On voit un film qui s'appelle Tony Erdmann, qui dure 2h40. On rentre dans la salle avec une certaine, sinon appréhension, du moins avec peu d'attente. Et le film s'est déployé sur le registre de la comédie, mais pas seulement, et a réussi à faire à secouer de rire presque toute la salle. Ce qui est rarissime à Cannes. C'est rarissime à Cannes.
Encore plus rare, des applaudissements au milieu du film.
Une ambiance, enfin c'était une des plus belles projections auxquelles j'ai assisté, cette projection de presse, qui ne sont rarement l'occasion d'une émotion partagée. Et rien que pour ça, le film... vaut la peine d'être remarqué. Je crois que quand même c'est un film qui a une matière, une substance qui raconte des choses merveilleuses,
Pierre
et
Murat,
intéressantes.
Pierre Murat.
Là, je suis pas du tout d'accord avec Thomas sur ce film que je trouve absolument nul, de 2h50 de nullité, ce que les Américains faisaient en 1h25 il y a quelques années. Maintenant, elle met 2h50 pour le faire avec des clowns comme acteurs, c'est épouvantable. Enfin bon, mais voilà. Pour la Palme, je sais pas. Je serai le jury. L'année dernière, j'aurais été très très embêté parce qu'il y avait rien ou quasiment rien. Et là, il y a quelques films. Voilà, moi j'aime beaucoup les deux roumains, le film de Cristi Puiu et le film de Mungiu, voilà. Mais je sais pas. Il me semble peut-être que ça serait un moyen pour le jury de récompenser Almodovar, qui est toujours reparti sans rien. Ben peut-être que ça serait un moment de le récompenser. Mais je suis très perplexe.
Antoine Guillot.
Il y a un risque parce que souvent les réalisateurs ont la Palme d'Or pour leur film le plus faible. Donc peut-être qu'Almodovar effectivement aura. Moi, je partage la même affection pour Tony Erdmann et deux autres qui m'ont beaucoup plu. Le film d'un nouveau venu, lui vraiment découverte, Kleber Mendonça Filho,
oui,
avec
bien.
Un film brésilien qui s'appelle Aquarius, avec des idées de cinéma en permanence et une actrice merveilleuse qui est Sonia Braga. Et le film de Jim Jarmusch, je pense un peu sous-estimé ici, qui moi m'a fait beaucoup de bien parce que il fait partie de ces films films qui prennent soin de vous. Et à Cannes, on en a beaucoup besoin. Donc, je recommande fortement Patterson. Et ça serait merveilleux qu'il ait sa palme avec ça.
Il sera au palmarès, je crois.
Sans doute.
Ouais. Merci à vous trois en direct de Cannes. Thomas Sautinel du Monde, Pierre Murat de Télérama et Antoine Guillot de France Culture. Le clin d'œil de l'émission de Yacine Bouzard, les manifs du mois de mai.
J'ai 13 ans, mai 68. C'est le choc de ce que, à un moment, des villes paisibles, j'habitais Rouen à l'époque, sont capables de s'embraser.
C'est le premier pavé de mai 68. D'un coup, le jeune homme fait mouche, le policier assis dans le car est atteint en plein visage. Il est 17h30, boulevard Saint-Michel, ce vendredi 3 mai. Autour, d'autres sont prêts à en découdre.
Tous au meeting international du 9 organisé par la...
150 000 jeunes qui sortaient de l'école sans aucun diplôme, sans aucune qualification. Nous avons pu diminuer substantiellement le nombre de ces jeunes.
Au quartier latin, la nouvelle se répand vite. Les forces de l'ordre croient s'en sortir en tapant dans le tas, mais surprise, les manifestants accusent le coup et contre-attaquent.
Il se trouve qu'en France, c'est nous qui avons la démographie la plus forte. C'est nous qui avons la vitalité la plus grande. C'est nous qui avons le plus grand nombre de jeunes.
Pour couronner le tout, l'Odéon est envahi par la foule. Pendant un mois, le théâtre se transforme en spectacle permanent.
Et ceux qui vous disent qu'ils vont réduire les dépenses d'éducation, réduire les dépenses de formation, empêcher l'accès à l'enseignement supérieur de beaucoup de jeunes, font une erreur historique par rapport à ce qu'est notre devoir.
Le mouvement va s'effilocher pendant tout le mois de juin, malgré la mort de deux métallos à Sochaux et celle d'un lycéen à Flins.
Voilà des extraits, bien sûr, du président de la République, François Hollande, que vous avez reconnu dans le clin d'œil. François Hollande qui sera mardi prochain en direct sur France Culture, invité d'Emmanuel Laurentin dans La Fabrique de l'Histoire, de 9h à 10h, mardi prochain, 24 mai, La Fabrique de l'Histoire avec François Hollande. L'actualité à l'étranger, nous allons à Berlin retrouver notre correspondant Cyril Sauvageau. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Alors l'actualité chez vous, Cyril, cette semaine, c'est aussi Cannes. Vous avez dû apprécier les commentaires de Thomas Sautinel du Monde, hein, et la presse allemande ne parle que de ça. La Palme d'Or possible, une première depuis Paris, Texas, de Wim Wenders en 84, Cyril.
Oui, tout le monde croise les doigts pour Marina Deux, la réalisatrice de Tony Erdmann. Va-t-elle réussir l'impensable, décrocher cette Palme d'Or 32 ans après Wim Wenders? La dernière récompense à Cannes pour le cinéma allemand, c'était un prix du scénario pour Fatih Akin en 2007. Depuis, plus rien. L'exploit serait d'autant plus considérable que le film de Marina Deux est une comédie, un genre pour lequel les Allemands se sont rarement illustrés, ce que reconnaît volontiers la Frankfurter Allgemeine qui persifle pour une fois qu'un film allemand fait rire. Le Spiegel salue une œuvre comique, sauvage et audacieuse. La Berliner Zeitung retient les rires, les larmes et les 8 minutes de standing ovation à la projection. Alors qui est cette réalisatrice qui a créé la surprise avec cette histoire de relation père-fille entre l'Allemagne et la Roumanie? Marina Deux, 39 ans, est considérée comme le grand espoir de sa génération. Ici, son film de fin d'études en 2003 avait eu les honneurs du festival de Sundance. La Berlinale lui a décerné quelques années plus tard un prix de réalisation pour son deuxième long métrage. Elle vient de Karlsruhe, elle a étudié le 7e art à Munich. Elle vit désormais à Berlin et elle ne se voit pas trop, à vrai dire, comme un porte-étendard. Si mon film a quelque chose de typiquement allemand, dit-elle à l'hebdomadaire Die Zeit, c'est dans le portrait du père, un homme emblématique des Allemands d'après-guerre. Pour le reste, Marina Deux se voit plutôt comme une cinéaste européenne. Son film d'ailleurs est une coproduction Allemagne, Autriche, Roumanie. Elle a tourné à Bucarest. En revanche, elle ne serait pas peu fière d'être la première femme à décrocher la récompense suprême depuis Jane Campion. C'était il y a plus de 20 ans pour La Leçon de piano.
Bon, bah réponse demain en fin d'après-midi. Un tout autre sujet, Cyril Sauvageau. Les relations Allemagne-Turquie, toujours à la une de l'actualité, à la veille d'un déplacement d'Angela Merkel à Istanbul.
Oui, la chancelière aura-t-elle le courage de dire ses quatre vérités à Recep Erdogan? Le sujet fait débat ici en Allemagne où beaucoup considèrent qu'Angela Merkel s'est mise à la merci du président turc qui est en position de force grâce à l'accord sur les réfugiés. Mais si l'on en croit le quotidien conservateur Die Welt, Angela Merkel a bien l'intention de mettre sur la table les sujets qui fâchent et notamment la levée de l'immunité pour les parlementaires, tout juste votée au Parlement turc. Un nouveau coup porté aux relations entre Berlin et Ankara, commente sèchement aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière. C'est surtout la démocratie turque qui semble menacée. Erdogan, en plein jeu de poker avec l'Europe sur la question des migrants, semble d'abord préoccupé par la consolidation de son pouvoir. Pour l'éditorialiste de Die Zeit, Michael Thumann, l'État Erdogan est en marche. On ne peut pas vraiment comparer ce régime au régime iranien, écrit-il. Chez Erdogan, l'islam occupe une place secondaire. C'est autour de lui-même, de sa propre personne, qu'il veut bâtir son autocratie. Le modèle le plus proche, finalement, serait plutôt la Russie de Poutine. En Allemagne, en tout cas, la révolte gronde contre Ankara. Le Bundestag s'apprête à voter début juin une résolution qui ne risque pas d'arranger les choses, puisqu'elle vise à reconnaître à son tour le génocide arménien. Enfin, une image pour finir, une image qui symbolise bien tout le rejet, la haine qu'inspire le président turc. Un collectif de vidéastes berlinois a projeté récemment sur la façade de l'ambassade de Turquie à Berlin un portrait géant d'Erdogan avec la moustache d'Adolf Hitler.
Merci Cyril Sauvageau, correspondant de Radio France et de France Culture à Berlin. Et merci à tous. L'émission se termine. J'ai eu le plaisir de recevoir ce matin Marie-Josée Sirach, chef du service culture du journal L'Humanité, Thomas Soutinel, journaliste au Monde et auteur de Rock et Cinéma aux éditions de La Martinière, Pierre Murat, rédacteur en chef adjoint à Télérama et responsable de la rubrique Cinéma, et bien sûr Antoine Guillot, critique cinéma de France Culture et producteur de la revue de presse culturelle de La Dispute. Dans La Dispute sur France Culture à 21h15 tous les soirs. Notre regard extérieur qui nous a accompagnés aujourd'hui, Mariette Darigrand, sémiologue, le clin d'œil de Yacine Bouzard, Cyril Sauvageau que l'on vient d'entendre dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Vincent Abouchard avec aux manettes aujourd'hui à Paris, Alexandre Dang et à Cannes au studio Radio France, Laurent Lucas. Un message important, la dernière édition de France Culture Papier numéro 18 vient de paraître, tous connectés. Quel avenir nous promet le numérique, France Culture Papier aux éditions Place des Victoires, France Culture Papier dans tous les bons kiosques. Dans un instant, le journal de Thomas Séchier, suivi de répliques, Michel Foucault dans la Pléiade, Alain Finkielkraut reçoit Frédéric Gros et Philippe Reynaud. C'était Le Secret des Sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal réplique. Bonne journée sur Culture.
Quand vous voyez 3, 4, parfois 5 films par jour et qu'au milieu, vous devez écrire des papiers, les enregistrer, faire des interviews et essayer de trouver parfois le temps de réfléchir au film, ben finalement, vous êtes bien content d'aller vous coucher le soir quand vous avez fini tout ça.
On parle des lunettes noires pour dissimuler les cernes, mais elles servent aussi à dissimuler les petites pauses que l'on prend pendant les projections.
Et à dormir interdit.
C'est interdit, mais j'aimerais qu'on filme avec une caméra infrarouge une salle de projection de la séance de 8h30 en fin de festival.